Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
Au départ, on faisait de l'étude et de la data analyse pour les marchandises, puis pour tout Carrefour France, et puis on a monté l'Analytics Factory. On n'a pas simplement pris des équipes de data science en leur donnant plus de moyens, en leur disant « allez-y, déployez à l'échelle ». On a maillé ça avec une connaissance très intime du business et des métiers à travers tout l'historique qu'on avait de data analyse, de business analyse. Et c'est la fusion de ces deux mondes qui crée la valeur dans les use cases qu'on traite aujourd'hui. On est dans un équilibre permanent qu'on doit trouver entre d'un côté garder nos priorités stratégiques, mais en même temps rester en capacité de s'adapter sur le court terme. Parce que c'est ça qui permet à la fois de s'assurer que on n'est pas en permanence en train de construire du jetable, mais en même temps, on n'est pas non plus une espèce de tour d'ivoire et qu'on est certain qu'on est toujours sur la balle.
Cet épisode est rendu possible par Data Galaxy, le data catalogue utilisé par plus de 150 entreprises dans le monde, telles que Total, SNCF ou Bank of China aux États-Unis. J'ai rencontré leur CEO Sébastien et il est venu nous expliquer comment mettre en place un data catalogue sur le podcast. C'est l'épisode 111, je vous le recommande, c'est une masterclass. En parallèle, on organise avec Data Galaxy un tirage au sort pour faire gagner une montre Fitbit à la communauté DataGen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché des data catalogues. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description, et pas d'inquiétude, ça prend 3 minutes. Alors aujourd'hui, je reçois Arnaud, qui est Chief Data and Analytics Officer Europe de Carrefour. Il va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir comment passer d'un data lab à une analytics factory. Formulé différemment, comment passer l'usage de la data à l'échelle, et ça dans un groupe qui n'avait pas initialement le digital au cœur de sa culture. Hello Arnaud, ça va ?
Super, ravi d'être là.
Pareil, ravi de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les équipes data de Carrefour pour planter un peu le décor.
Je pars du principe que tout le monde connaît Carrefour. Peut-être que ce qui est moins dans l'esprit des gens, c'est la dimension data et digitale de Carrefour. En fait, il faut savoir que Carrefour a entamé une transformation digitale depuis maintenant plusieurs années. Ça a démarré en 2017-2018 avec l'arrivée d'Alexandre Bompard, notre patron actuel. Et en fait, cette transformation digitale, elle a un objectif très clair, c'est de faire de Carrefour à horizon 2026 ce qu'on appelle en interne une digital retail company. Donc en gros, une entreprise de distribution alimentaire. Donc on reste sur notre cœur de métier, mais par contre où le digital, la data, l'analytics est au cœur de la culture et infuse dans tous les processus cœur de l'entreprise. On s'assure qu'on tire parti de nos données de l'analytics sur tous nos processus cœur, que ça soit les assortiments, la promotion, le pricing, les opérations magasins, etc. Faut avoir en tête que on a la chance chez Carrefour d'avoir énormément de données à notre disposition. Déjà, on intervient dans beaucoup de pays, on a beaucoup de clients, on a des petabytes de données, des milliards de transactions dans nos bases, donc on a une matière brute qui est très riche pour travailler. Et derrière, on a mis en place des équipes pour travailler ça. Donc moi, la direction dont je m'occupe s'appelle l'Analytics Factory. Donc on va parler de comment on est arrivé à cette factory. On essaye d'être factory industrielle. Mais aujourd'hui, l'Analytics Factory, c'est à l'échelle de la France, 150 personnes. Tu le disais en introduction, on est en train de travailler à l'extension de ce périmètre-là à l'Europe. Donc on est nombreux. On essaie de mettre à profit cette force de frappe en termes d'analytics de data science pour à la fois accompagner nos métiers au quotidien et puis construire des solutions industrielles qui viennent s'inscrire dans nos processus cœur.
Et donc maintenant, si on parle peut-être un peu plus de toi, ton parcours, comment tu t'es retrouvé justement à ce poste de Chief Data and Analytics Officer Europe?
J'ai un parcours, je pense, qui est un peu atypique puisque je viens pas de la data science. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait Central Paris, j'ai fait une spécialisation en télécom, donc rien à voir avec le retail ni avec la data science. J'ai passé une grosse dizaine d'années dans le conseil en stratégie, où j'ai fait des missions de conseil en strat classique, et dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le retail, beaucoup dans les télécoms et les médias. Je suis tombé dans le retail complètement par hasard. J'ai eu un coup de cœur pour ce secteur-là, le retail. Je pense qu'avec deux facteurs clés. Le premier, c'est que c'est un secteur qui est très proche du terrain et du quotidien des gens. Quand je parle de ce que je fais à mes enfants, à mes parents, à ma femme, je peux assez facilement expliquer les conséquences des algos qu'on est en train de construire, ce qui est assez agréable. Et puis l'autre dimension, c'est que, comme je disais, quand on aime l'analyse et la data, c'est un terrain de jeu qui est génial parce qu'on a des données qui sont hyper concrètes, hyper volumiques, qualitatives en l'occurrence, on en reparlera, mais c'est évidemment des facteurs clés. Et du coup, progresser quand on a un ADN de data analyse sur ce chemin-là, c'est dans ce secteur-là, c'est évidemment une trajectoire qui est hyper épanouissante. Et du coup, j'ai grandi comme ça dans un parcours de data analyst. Et avec, comme je disais, depuis l'accélération qu'on a chez Carrefour sur ce domaine de l'analytics depuis 2017-2018, bah, petit à petit, un périmètre qui a pris de l'ampleur. Au départ, on faisait de l'étude et de la data analyse pour les marchandises, puis pour tout Carrefour France. Et puis, on a monté l'Analytics Factory, on a rajouté de la data science et on construit des solutions à l'échelle pour aider nos métiers et au final, faciliter la vie de nos clients.
Excellent. Bah justement, on va parler un petit peu de cet axe chronologique, comment ça s'est passé. Je l'ai introduit un peu au départ. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'un de tes plus gros challenges de ces dernières années, à savoir comment un peu passer la data à l'échelle et donc en passant notamment de ces deux entités. Bon, ça, c'est une manière de le schématiser. Hein, il y a plein de manières de le voir, mais de ce qui était au départ un data lab et de ce qui est devenu maintenant une analytics factory, comme tu disais, avec des projets plus industriels. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ouais, quel était le contexte de départ, cette première phase que tu as abordée succinctement hein.
Donc déjà, si on se rappelle, 2017-2018, on était loin d'avoir les capacités techniques de traitement de données qu'on a aujourd'hui. En gros, à l'époque, on avait d'une part des équipes qui étaient très orientées data analyse, donc qui étaient au service des métiers pour les aider au quotidien avec des outils de data analyse, donc très loin de la data science. Et puis de l'autre, on a monté un lab, donc ça arrivait en 2018-2019, qui avait pour vocation de faire la preuve par l'usage, qu'on arrivait à délivrer de la valeur avec des use cases d'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'était pas de scaler, c'était vraiment de prendre des use cases de manière très opportuniste et d'arriver à montrer la valeur de ces approches-là auprès du top management, auprès des métiers, pour commencer à rentrer dans une démarche de transformation autour de la data et du digital. Donc ça, c'est ce qu'on a fait d'un point de vue analytique. Et puis en parallèle, il y a eu un énorme travail qui a été mené par les équipes IT de Carrefour pour constituer notre data platform. Donc prendre l'ensemble de nos données, comme je disais, c'est une masse colossale de données, les mettre dans le cloud, dans un écosystème structuré avec un univers décisionnel qui aujourd'hui encore nous permet de travailler. Et ça a vraiment été le début de l'histoire, puisque si on n'a pas cette data platform, évidemment derrière, on fait pas grand chose en termes de data science. Donc il y a vraiment d'un côté une acculturation des métiers avec le data lab, mais plutôt dans une logique opportuniste, de la data analyse au quotidien avec les métiers, puis de l'autre un enabler technique qu'il a fallu construire. Ça a pris du temps, hein, ça a pris bien 2-3 ans pour construire cet enabler, pour avoir une data platform qui nous permette réellement de travailler à l'échelle sur nos données. Et là, on arrive à la création de l'Analytics Factory.
Ok, ouais, c'est super intéressant parce que tu vois effectivement la phase un peu de prise de connaissance où l'idée, c'était peut-être d'être plus large, plus horizontal. On teste plein de cas d'usage, on voit là où ça marche moins bien, etc. Mais en restant à chaque fois sur des périmètres peut-être soit plus ponctuels ou plus restreints géographiquement, etc. pour enlever un peu de complexité de mise à l'échelle. Et en même temps, c'est ça aussi qui a dû vous permettre d'identifier toutes les lacunes, entre guillemets, si je puis dire, côté fondation, quoi, hein, ce que toutes les boîtes ont pu rencontrer. Souvent, c'est un peu grâce à tous ces proof of concept, toutes ces premières initiatives, que tu arrives à dessiner ce qui va te manquer pour passer à l'échelle. Donc, c'est un passage qui est nécessaire.
Complètement. En fait, je pense que c'est exactement ce que tu décris, à savoir, il y a d'un côté un apprentissage sur la dimension technique, c'est-à-dire que c'est quoi les enablers en termes de plateforme, en termes de stack technique dont on a besoin pour travailler efficacement. Et ça, on l'a appris avec le lab. On a fait venir des compétences qu'on n'avait pas chez Carrefour, qui nous ont permis de nous mettre le pied à l'étrier là-dessus. Donc vraiment sur une dimension technique. Mais je pense qu'une autre dimension qui est au moins aussi importante, c'est vraiment une dimension d'apprentissage métier, d'acculturation du métier. C'est-à-dire que c'est aussi ce travail qui a été fait au moment du Google Lab, une appropriation qu'on a commencé à déclencher auprès du métier pour que les interlocuteurs qu'on avait, et ça démarre au COMEX jusqu'à des opérationnels, comprennent comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser la data et l'intelligence artificielle pour servir leurs besoins et atteindre leurs objectifs.
Ok, donc toi, je suppose, avec ton équipe, hein, vous posez un peu la vision de cette factory. Quelle est l'approche qui est mise en place? Quels sont les objectifs clés? Comment ça se passe?
On a 3 objectifs quand on monte l'Analytics Factory. Le premier, c'est de garder notre ADN de data analyse. C'est-à-dire que dans l'Analytics Factory, le premier objectif, c'est de garder la proximité avec les métiers et de rester au service au quotidien des métiers pour leur apporter les réponses dont ils ont besoin dans leur business du quotidien. Le deuxième objectif, bah, c'est de passer à l'échelle ce qu'on avait commencé à faire sur le lab, c'est-à-dire de prendre cette fois des cas d'usage qui sont les cas d'usage sur les enjeux stratégiques de l'entreprise et de s'assurer qu'on met les moyens pour se permettre d'adresser les problématiques à l'échelle de l'entreprise, donc à l'échelle de Carrefour France, en l'occurrence quand on a monté l'Analytics Factory. Le troisième aspect, c'est que dans cette idée d'être au service du métier, il y a aussi l'idée de à la fois de donner de l'autonomie au métier et de permettre de décentraliser la data analyse, mais aussi de garder une expertise centralisée qui permette de rester maître et garant sur un certain nombre d'indicateurs ou de démarches clés pour l'entreprise.
Ouais, donc ça, c'est quelque chose effectivement que j'avais peut-être pas bien saisi. En fait, donc l'Analytics Factory, elle est venue réunir un peu aussi deux initiatives différentes. Une qui était celle du lab, qui là concernait peut-être plus des projets de data science, et une qui était quelque chose qui existait depuis plus longtemps, qui était déjà en fait plus industrielles qui étaient les initiatives autour de l'analytics et de l'analyse.
Alors industriel au sens où on adresse les problématiques des métiers et sur les problématiques très opérationnelles et du quotidien. Pas industriel au sens où on n'était pas sur des solutions de data science ou d'analytics avec de l'automatisation ou pas dans ce sens-là.
Okay.
Par contre, je pense que c'est toute la valeur de la manière dont on a monté la factory, c'est d'avoir réuni ces deux mondes-là. C'est-à-dire que on n'a pas simplement pris des équipes de data science en leur donnant plus de moyens, en leur disant faites ce que vous faisiez, mais maintenant vous avez plus de moyens, mais plus de data scientist, on a un socle technique qui est plus robuste que ce qu'on avait avant et allez-y, déployez à l'échelle. On a maillé ça avec une connaissance très intime du business et des métiers à travers tout l'historique qu'on avait de data analyse, de business analyse, et c'est la fusion de ces deux mondes qui crée la valeur dans les use cases qu'on traite aujourd'hui. Et on parlait des rôles tout à l'heure. Effectivement, on a des data scientists, on a des data engineers, on a des data analysts. On a créé une fonction qui est un peu l'incarnation de cette fusion des deux mondes qu'on a appelé data translator. Et qui est vraiment le point de pivot entre d'un côté la compréhension intime de ce que sont les problématiques du business et la capacité à traduire ça en démarche analytique et à rentrer dans les projets de data science ou d'intelligence artificielle en amenant ce bagage-là et cette compréhension-là. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on s'assure que quand on construit une solution, on va prendre les bonnes décisions avec, parce qu'on a mis, on a posé le problème correctement en entrée. On est capable d'évoluer correctement les résultats en sortie. C'est vraiment le rôle du data translator dans notre organisation.
Et peut-être que tu peux nous parler d'un projet ou deux, justement, sur lesquels vous avez travaillé là ces dernières années. Ça peut permettre à l'audience de se projeter un peu plus dans ce que...
Ouais, alors bon, la bonne nouvelle, c'est que la factory a marché. C'est-à-dire qu'on a travaillé énormément de use case. Je parlais tout à l'heure d'assortiment, de promo, de pricing, de supply chain, de recommandations et de personnalisation d'expérience sur nos sites e-commerce. Donc des use cases, on en a beaucoup. Je vais pas rentrer dans le détail de tout. Je pense que peut-être deux use cases un peu emblématiques de ce qu'on a pu faire. Un use case sur la promotion. Je sais pas si c'est vu et connu de tout le monde, mais faut imaginer que pour un distributeur comme Carrefour, la promotion, les catalogues que vous receviez avant dans vos boîtes aux lettres et qui maintenant sont de plus en plus digitalisés, les promotions qu'on reçoit par mail, c'est une part très importante du business. Et évidemment, quand on fait une promotion, c'est compliqué de savoir exactement l'incrémental en chiffres, en marge que génère cette promotion, l'intérêt qu'elle a pu représenter pour les clients. Et si on se place il y a 4-5 ans de ça, on n'avait pas d'outils pour faire ça proprement et ajuster le contenu de notre plan promotionnel à l'échelle. Donc on a construit toute une approche où à la fois on s'est donné les moyens de mesurer proprement promotion par promotion. Il faut imaginer qu'on en fait des milliers par an, des promotions. Donc promotion par promotion, on a mesuré la valeur en chiffres et en marge qu'apportait chacune de ces promotions, qui l'intéressait comme client, qui ne l'intéressait pas. Et puis derrière de cette analyse-là, on a construit un modèle prédictif qui permet maintenant aux équipes qui construisent les catalogues d'être capables de simuler en temps réel la performance d'une promotion qu'ils envisagent de faire, et du coup d'ajuster le contenu du catalogue en disant bah j'ai prévu de faire une promotion sur la lessive en 2+1. En fait, cette promotion, elle va pas marcher comme j'espérais. Finalement, je vais pas la faire sur la lessive ou pas la faire en 2+1, c'est de acheter un gratuit, pardon pour le jargon, et je vais la faire plutôt avec 20% de remise immédiate par exemple. Et ce qui est intéressant dans cette approche là, c'est que tel que je viens de le décrire, ça paraît simple. En fait, derrière, il y a l'algorithmie. Et évidemment, c'est un gros sujet parce qu'il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'effets qui viennent perturber la lecture de la performance des promotions, et que quand on essaye de prédire, il y a une énorme combinatoire entre tous les produits, toutes les mécaniques que je peux jouer. Donc il faut quand même des modèles assez robustes pour faire la prédiction. Mais en fait, le plus gros challenge dans ces approches là, c'est le change, c'est d'être capable de s'assurer qu'une fois qu'on a construit le modèle, on arrive à avoir une appropriation par les équipes qui font les catalogues pour qu'elles aient confiance dans le modèle, qu'elles l'utilisent quand elles font leur choix de promotion, et qu'à la fin, on soit capable de mesurer les impacts. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ce use case-là, on mesure des impacts qui sont colossaux, parce qu'en gros, ça se compte en dizaines de milliers d'euros en marge, en impact de marge, juste avec ce use case-là. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, il y a un autre exemple qui est sur une dimension un peu différente. Je parlais de recommandations sur nos sites e-commerce. Donc évidemment, comme sur n'importe quel site e-commerce, on a développé plein d'algo de recours sur de l'upsell, du cross-sell, des achats fréquents, etc. Et en fait, on a décliné ces algos-là au moment de pic d'inflation pour arriver à faire des recommandations sur des produits moins chers. Donc ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que c'était vraiment l'illustration qu'on était capable de passer dans des démarches agiles. Parce qu'en gros, entre l'atelier d'idéation qui a dû avoir lieu en juin d'il y a un an, et le modèle qui était en production et visible de nos clients, il s'est grosso modo passé 3 mois. En 3 mois, on est passé de l'idée au proof of concept, au test et au déploiement. 2 use cases très différents, mais qui montrent un peu l'étendue de ce qu'on fait maintenant à l'échelle de la factory, à la fois des gros projets avec du change assez lourd, et puis des projets sur lesquels on va très vite. Et on est capable en 3 mois de passer d'une idée à un produit qui est visible de nos clients sur nos sites et applications.
T'as parlé déjà d'un ou deux challenges, hein, notamment tu disais vraiment l'adoption dans les process des utilisateurs. Je suis curieux que tu nous dises justement quelles ont été les plus grosses difficultés que t'as rencontrées toi, ou que toi t'as ressenti, ou que vous avez ressenti en tant qu'équipe, dans le cadre un peu de ce passage à l'échelle ou dans le cadre de ces projets plus spécifiquement, je te laisse choisir.
Deux gros enjeux, deux gros challenges. Le premier, c'est celui de la focalisation. Au sens où, évidemment, quand on arrive, qu'on met des moyens, qu'on a, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est 150, donc on commence à avoir une capacité à traiter des sujets à l'échelle. Pour autant, on peut pas tout traiter. Il faut imaginer que Carrefour, c'est quand même une grosse, grosse machine, avec énormément d'acteurs. Et du coup, maintenant qu'on a un peu éduqué nos execs sur l'intérêt de l'intelligence artificielle, tout le monde vient nous voir avec plein de bonnes idées de comment on pourrait les aider. Et on a vraiment besoin de s'assurer que sur nos gros sujets, on identifie les enjeux stratégiques et on se focalise dessus pour mettre nos moyens là où on va délivrer de la valeur. Et du coup, ça suppose d'avoir une gouvernance hyper hyper serrée sur l'identification des sujets stratégiques qu'on va porter dans notre roadmap analytics et la focalisation des moyens sur ces sujets-là. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà, faire ça, c'est pas simple, parce que ça suppose qu'on a la bonne gouvernance, qu'on soit très maillé avec les comités exécutifs de la France, maintenant du groupe ou de l'Europe, pour arriver à identifier ces priorités-là. Mais en même temps, il faut imaginer qu'on est dans un contexte business qui est très volatile. Juste si je regarde sur les deux dernières années, on a eu la guerre en Ukraine, un peu avant, on a eu le Covid. Là, on est en train de changer de contexte réglementaire en France avec une nouvelle loi Egalim. Enfin, tout ça, ça induit énormément de changements dans le business, et puis c'est la réalité de tous les jours. Et du coup, on est dans un équilibre permanent qu'on doit trouver entre, d'un côté, garder nos priorités stratégiques et nos gros sujets de moyen long terme, et en même temps, rester en capacité de s'adapter sur le court terme pour servir les métiers qui sont nos clients internes sur leurs problématiques du moment, en fait. Et du coup, cet équilibre-là, il n'est pas évident à trouver, mais c'est un des facteurs clés de succès quand on arrive à le trouver, parce que c'est ça qui permet à la fois de s'assurer que on n'est pas en permanence en train de construire du jetable et de pas délivrer toute la valeur qu'on peut délivrer, mais en même temps, on n'est pas non plus une espèce de tour d'ivoire où on met des dépenses d'investissement et puis qui délivre, ne serait-ce que même 3 mois, des fois c'est trop tard, c'est même beaucoup trop tard dans certains cas, et qu'on est certain qu'on est toujours sur la balle. Et le rôle de data translator que j'évoquais, il est clé là-dedans, parce qu'en fait le data translator, c'est vraiment lui qui va être au quotidien avec les métiers pour les aider sur leurs problématiques très court terme, et qui en même temps va s'assurer que tout ce qu'on fait sur le court terme reste cohérent avec la vision de long terme qu'on a et les solutions industrielles qu'on est en train de construire. Premier challenge. Et le deuxième challenge, c'est la manière dont on arrive à trouver le bon équilibre entre la centralisation et la décentralisation. Comme partout en ce moment chez Carrefour, on est en mode data mesh, on met la data dans les métiers, on a de la data gouvernance, etc. En fait, le vrai challenge derrière ça, c'est pas tant de se dire qu'on va mettre la donnée à disposition des métiers, c'est pas tant de se dire qu'on va former les métiers pour leur expliquer comment on fait de la data viz, comment on va requêter en SQL. Le vrai challenge, c'est de s'assurer que sur le pourquoi, qu'est-ce que je veux faire avec la donnée, et sur les conclusions que je tire une fois que j'ai les résultats de mes analyses, je suis suffisamment formé et acculturé pour que j'en tire les bonnes conclusions. Et ça suppose d'avoir vraiment un bon équilibre entre des ressources qu'on va décentraliser et des ressources de data analyst qui se multiplient dans les métiers, et en même temps garder un centre d'excellence, un centre d'expertise centralisé qui permet de s'assurer que on partage les standards, qu'on fait pas 3 fois la même analyse dans 3 entités métiers différentes pour arriver à 3 conclusions différentes. Et là encore, le rôle de data translator est clé. Donc je parle beaucoup du data translator, mais c'est vraiment la réponse qu'on a sur ces sujets-là, sur ces challenges-là, et qui nous permet de garder la direction et de s'assurer qu'on a le bon niveau de maillage avec nos métiers sur cette logique de décentralisation.
Et pour avoir un ordre d'idée, il y en a combien, par exemple, des data translators? Enfin, je fais un focus exprès.
Alors, en fait, data translator, c'est une organisation plus qu'une fonction simplement.
Ah, okay.
C'est-à-dire qu'il y a des lead data translators qui portent tout ce que je viens de décrire. Et dans les équipes de data translator, on a évidemment les data analysts qui sont les personnes qui vont produire au quotidien les analyses, amener les insights. Et aujourd'hui, dans l'organisation, je disais tout à l'heure, on est grosso modo 150. Il y a la moitié des ressources qui sont consacrées plutôt sur la data science, le data engineering et vraiment la construction des solutions industrielles. On a une équipe qui fait de la data viz, et puis un bon tiers de l'organisation, c'est la fonction data translator. Et en fait, l'idée, c'est que cette fonction-là, on la dimensionne pour qu'elle soit capable de répondre aux différentes verticales métiers qui viennent nous voir. Parce qu'évidemment, pour bien faire le boulot de data analyst ou data translator, il faut avoir cette connaissance métier. Donc, c'est pas des fonctions qu'on va transversaliser sur toute l'organisation, c'est des fonctions qu'on va plutôt spécialiser sur des verticales métiers. Donc, on a des data translators sur la marchandise, sur le commercial, sur le e-commerce, sur la supply chain, etc. Le profil type, c'est un data analyst, un data scientist, qui a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un rôle classique de data analyst, data scientist, et puis qui va montrer qu'il a à la fois la capacité à s'orienter vers le business et interagir de manière très, très efficace avec le business. Une vraie, enfin, c'est de l'empathie, en fait, hein. C'est vraiment une capacité à se mettre dans les chaussures du business. Et puis de l'autre, qui garde son bagage technique pour être capable d'interagir hyper efficacement et de manière fluide avec des data scientists, des data engineers, des ressources beaucoup plus techniques.
Et je voulais revenir une seconde sur quelque chose que tu as évoqué, c'est le passage. Tu disais que depuis quelques années maintenant, comme vous avez fait un peu cette évangélisation entre guillemets, que Maintenant, il n'y a plus de doute sur le fait que qu'il y a de la valeur à venir utiliser la data dans les métiers. Vous coulez, entre guillemets, sous les demandes. Je serais curieux que tu nous dises à quel moment tu as senti, et si tu l'as senti, ce switch un peu de culture.
Ouais, alors, je te dire qu'il y a eu un moment comme ça où tout a changé du jour au lendemain, non. Mais par contre, quand on a monté Analytics Factory, on a, parce qu'on a besoin de sponsorship, pour ça, on a besoin d'avoir un top management qui a culture à ça. Donc, du coup, on a fait des formations. Donc, on a pris tous nos top execs Carrefour. On les a fait venir 2 jours à HEC. Et pendant 2 jours, on leur a parlé de data, d'IA, ce qu'on peut faire avec, etc. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, on a senti, avec cette formation-là, que, à la fois, on leur montrait le potentiel de ce qu'on pouvait faire, mais qu'en même temps, on sortait d'une pensée un peu magique autour de la data, où souvent, soit ils venaient pas nous voir, soit ils venaient nous voir en pensant qu'on avait la réponse à tous leurs problèmes, et surtout, qu'on était même capable de résoudre des problèmes qu'ils n'étaient pas capables de formuler. Parce que c'est aussi ça. Si on vient de voir avec un problème qui n'existe pas ou qui n'est pas bien formulé, c'est difficile d'y répondre. Mais il y avait un peu ça, une espèce de pensée magique autour de la donnée. Et vraiment, on a senti une montée en maturité qui est parti du COMEX, qui est descendu dans les opérationnels, et puis de l'autre côté, avec toute l'activité historique un peu qu'on avait de data analyse, en fait, ces personnes-là qui venaient déjà solliciter tous les jours des data analystes, elles ont vu arriver des moyens où d'un coup, on leur a dit, ce que je te faisais avec une analyse ad hoc où j'allais mettre 3 semaines à le faire et puis tu reviens me voir dans 3 mois et on reprend 3 semaines pour le faire, maintenant, on va pouvoir construire une solution qui va te permettre de le faire toi-même en direct et de le faire quand tu veux. Exactement un peu les logiques que j'ai créées sur la promo. Et eux, du coup, ils ont vu arriver la vague comme ça et ils sont venus nous voir plus en nous demandant je veux ça pour dans 3 semaines, mais je veux que tu me construises un outil qui me permette de faire moi-même le boulot. Et c'est ça qu'on a connu sur l'assortiment, sur la promotion, sur ce type de sujet-là, où vraiment on a eu une prise de conscience que les métiers pouvaient être autonomes et qu'on pouvait leur construire des solutions qui leur permettaient de prendre les décisions sans qu'on soit dépendant de data analystes et de statisticiens qui travaillent pendant des semaines ou des mois.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des prochaines étapes en termes de data pour l'Analytics Factory ou même pour Carrefour généralement?
On en a parlé au début. Le premier sujet pour nous, ça va être l'extension géographique. Tout ce que j'ai décrit, c'était vrai pour la France jusqu'à cet été. Et là, depuis cet été, on est en train d'étendre cette démarche-là d'Analytics Factory à l'ensemble des pays de Carrefour et notamment l'Europe. Donc, c'est la France, c'est beaucoup l'Espagne. On essaie de démarrer par ce tandem-là, France-Espagne, et puis à terme sur l'ensemble des pays en Europe, donc l'Italie, la Belgique, la Pologne, la Roumanie. Et ça, évidemment, ça pose des challenges techniques parce que on n'est pas dans un contexte où les stacks techniques sont totalement équivalentes et on part du même actif entre la France et les autres pays. Ça pose des problèmes de culture, parce que la culture analytique, c'est pas forcément la même entre tous les pays. Et puis par contre, la bonne nouvelle, c'est que il y a des vraies opportunités de convergence. C'est-à-dire qu'on voit, quand on discute avec les business en Espagne, quand on fait se parler les équipes analytiques entre la France et l'Espagne, que au final, les problèmes qu'on rencontre de part et d'autre des Pyrénées, c'est pas loin d'être les mêmes. Donc on voit qu'on a un vrai potentiel à rentrer dans cette mutualisation et arriver à faire en sorte qu'on partage toutes les bonnes pratiques et on construise comme ça cette approche convergente. Donc le premier challenge, ça va être celui-là. Ça va être de passer à l'échelle, plus simplement sur la France, mais à l'échelle de l'Europe chez Carrefour. Et puis peut-être pour compléter, on a 2 autres challenges. Le deuxième, c'est, on en parlait un peu aussi, tout ce qui est l'acculturation data et le fait de réellement scaler l'usage de la data dans les métiers. Donc d'avoir une population de data analystes qui soient en capacité dans les métiers d'utiliser la donnée de manière autonome pour faire leur propre BI et être capable de tirer leurs propres enseignements avec la donnée. Et ça, comme je disais, c'est pas simplement un sujet d'outillage, de data gouvernance, de data catalogue, de data vis, etc. C'est beaucoup un sujet de formation et pas une formation que technique. Il s'agit pas juste d'apprendre le SQL, mais aussi une formation sur comment est-ce que je fais une analyse et à la fin, comment est-ce que je dois prendre une décision? Ça, du coup, c'est des sujets qui prennent du temps parce qu'il faut amener des métiers qui sont pas forcément dans ces logiques-là à rentrer dans des approches beaucoup plus structurées sur comment je formule mon problème, comment je construis une démarche analytique et à la fin, comment est-ce que je construis la mesure de mes résultats pour être certain que je vais pas prendre une décision qui va être erronée ou qui est juste la décision que j'aurais prise si j'avais pas fait l'analyse, en fait, ce qui est souvent le cas, en fait. Je fais l'analyse pour habiller une décision que j'ai déjà prise, en fait. Puis la dernière chose, mais qui concerne un peu tout le monde et qui est la vague qui nous submerge tous depuis quelques mois maintenant, qui est toutes les nouvelles capacités, surtout les nouveaux cas d'usage qu'on voit émerger avec l'IA générative. Ça, évidemment, on a démarré assez tôt chez Carrefour avec des chatbots qu'on a déjà mis sur nos sites internet pour aider à constituer les paniers, proposer des recettes, etc. Mais j'apprendrai rien à personne en disant que le champ des possibles et tout ce qu'on est en train d'investiguer là ouvre pas mal de portes sur des verticales qu'on ne traitait pas, sur même dans des use cases plus classiques, des nouvelles capacités qu'on a avec les LLM. Donc, pour le coup, énormément de potentiel autour de ce.
Ouais, ou parfois reprendre les mêmes use cases, mais juste les réoptimiser.
Exactement.
Écoute, Arnaud, on arrive sur les dernières questions. Donc là, c'est un peu ambiance question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
Bah en fait, je parlais tout à l'heure du challenge pour les métiers à prendre les bonnes décisions. Et il y a quelqu'un que je suis et que j'aime bien qui s'appelle Cassie Kozirkov,
ouais,
qui est ancienne Chief Data Officer de Google et qui a cette double casquette un peu à la fois data intelligence artificielle, mais qui a aussi une casquette science cognitive. Et je trouve que la double approche est de comment est-ce que techniquement je fais en sorte que ça marche, mais aussi comment est-ce que plus d'un point de vue science cognitive, je fais en sorte que j'utilise intelligemment les outils. Est toujours super riche et intéressant. Donc, je pense que tous les contenus qu'elle sort, elle a fait une formation il n'y a pas longtemps sur la prise de décision.
Okay.
Je trouve que c'est toujours super puissant d'avoir cette double lecture et pas simplement une lecture technico-technique sur ce qu'on peut faire avec l'intelligence.
Ok, donc ça peut être la suivre sur LinkedIn. Elle fait aussi des articles sur Medium. Et là, tu parles d'une formation aussi.
Elle a une formation sur LinkedIn qui est un condensé de decision making et comment est-ce que je fais pour prendre des bonnes décisions que je trouve vachement bien foutu. Et puis, ouais, tous ces articles Medium, elle a une formation, alors le classique de 6 heures, je crois. Sur YouTube, sur le machine learning, mais avec toujours ce prisme un peu decision making et pas simplement j'explique ce que c'est que le machine learning et les trucs qui existent en.
Ouais, j'ai regardé pas mal de choses qu'elle fait, c'est vrai que c'est génial. Je mettrai donc tous les liens pour aller découvrir ça dans la description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data?
Bah, je pense que ce que j'aime, c'est à la fois les maths. Hein. Je suis matheux de formation, matheux de goût et du coup, je garde cette appétence-là. Et puis en même temps, c'est la capacité à utiliser cette data pour avoir des résultats très concrets. Je pense que c'est ça qui me plaît dans ce que je fais chez Carrefour, c'est que, comme je le disais, voir que quand je vois les promotions ou les produits qui sont proposés sur le site ou mes parents qui vont dans le magasin, me dire que ce qu'on fait a un impact dans le quotidien de tous ces gens-là, c'est hyper puissant.
Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser?
Je pense la diversité des profils que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai à la fois dans mon expérience précédente dans le conseil, où j'étais dans plein de secteurs différents, plein d'acteurs, télécom, médias. Et chez Carrefour, cette diversité d'interlocuteurs depuis des gens très techniques et j'ai la chance d'avoir des équipes hyper compétentes et hyper pointues qui m'apprennent tous les jours et puis en même temps des interlocuteurs métiers quand on parle à des directeurs de magasins, à des patrons de la supply chain, etc. qui apportent une lecture toujours très différente et super riche du quotidien dans lequel on évolue. Donc cette richesse de contact fait qu'à un moment on apprend tous les jours au contact de ces gens-là.
Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Je dirais better done than perfect. C'est-à-dire que on est tenu chez Carrefour d'être hyper pragmatique. C'est un peu ce que je décrivais tout au long de l'échange sur la nécessité de trouver cet équilibre entre la vision long terme, la vision court terme et d'apporter des solutions. Je pense que le jour où j'ai compris que il fallait renoncer à une forme de perfection et qu'il fallait s'assurer qu'on délivrait et que ce qui comptait c'est la création de valeur, ça a permis de lancer beaucoup de choses et qui fait qu'on arrive à délivrer encore tous les jours à l'Analytics Factory.
Bah écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Arnaud en tout cas d'être venu nous partager ton expérience et nous parler un peu de la data chez Carrefour sur le podcast. C'était super intéressant et puis je te dis à bientôt.
Eh ben merci Romain et à bientôt.
Pour info, DataGen c'est aussi un collectif de top profil data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description.